Micro ouvert. Micro ouvert.
Vous écoutez Fréquence Mistral. Micro ouvert. Bonjour, aujourd'hui nous accueillons le groupe Zar Électrique qui vont nous présenter leur premier EP intitulé Awa, produit par Zar Électrique et Lamastrock sur le label Jarring Effect. Nous allons donc parler musique et hybridité dans cette émission spéciale. Comment associer des techniques musicales différentes à la croisée de plusieurs styles entre trance gnaoui, musique subsaharienne et électro? Comment créer un répertoire composite et hétérogène? Donc bonjour Anas Zine, Arthur Penaud et Didier Simonet.
Simeon.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter individuellement et nous parler de la composition du groupe?
Bon, je commence. C'est Anas Zine. Je suis marocain de Casablanca. Je suis arrivé à Marseille en 2014. Donc, je suis chanteur et compositeur. Je joue la guitare, le gombri, le oud, les qaraqab à la gnawa.
Merci.
Donc, ouais, moi, c'est Niozine. C'est que je m'occupe des machines dans le projet. Voilà, donc je suis tout ce qui est pro d'arrangement, synthé, autant en live qu'en studio. Voilà. Et je suis marseillais, précisément de la STAC.
Très bien.
Bonjour, c'est Arthur Penaud. Moi, je suis arrivé à Marseille en 2009. Je joue la cora dans le projet, les percussions. Je compose aussi, je chante. Et voilà.
Et donc, pouvez-vous nous les présenter, ces instruments comme le oud, la kora ou le gombri?
Pour le oud, c'est une luth orientale. Donc, c'est un instrument en fait, qui a débarqué de Bagdad vers l'Andalousie via Ziryab. Et c'est un instrument en fait, qui faisait à l'époque 4 cordes, qu'on a développé au fil du temps, maintenant qu'on arrive à 6 cordes qui sont doublées. Pour le gombri, c'est une basse traditionnelle africaine. Donc pareil, c'est des instruments qui voyagent, qui ont beaucoup voyagé. Et c'est, donc ça ressemble, c'est un tronc d'arbre qu'on met une peau de chameau souvent par-dessus et des cordes en boyau. Donc c'est un mélange entre le groove, la percussion et la mélodie qui va vachement vers les basses. Quoi.
Pour la kora, ouais, c'est une harpe à 21 cordes traditionnellement. Ça vient de tout l'ancien empire mandingue, c'est-à-dire le Mali, le Sénégal, la Guinée, la Gambie, etc. Tout ce que... C'était un seul et même royaume avant l'arrivée des colons qui ont tracé des frontières. C'est un instrument qui était dans la cour des rois, en fait, qui est toujours joué par les griots, qui sont l'espèce de... qui étaient traditionnellement les troubadours qui accompagnaient le roi, qui lui jouaient la musique.
Merci, c'est important de situer. Et quels sont vos parcours musicaux à chacun?
Moi, en fait, j'ai vécu au Maroc, donc j'ai commencé à l'âge de 15 ans la musique. J'étais toujours chanteur, compositeur, porteur de projet. Donc j'avais commencé par mon premier groupe, c'était Gnawa Click, un groupe que j'ai gardé pendant 10 ans. Au Maroc, j'ai fait pas mal de tournées avec et tout. J'ai sorti notamment un album en 2014 et après je suis arrivé à Marseille direct avec cet album et mes instruments. Après à Marseille, en fait, j'ai rencontré des musiciens à Marseille qui m'ont ouvert les bras, si tu veux, à Marseille et dans les bars de Marseille. Et j'ai commencé à jouer avec un groupe qu'on a créé à l'époque qui s'appelait Bambara Groove, qui a duré pendant un an. Et après, par la suite, j'ai remonté mon groupe. En fait, je voulais faire un pont entre Casablanca et Marseille. Enfin, et du coup, j'ai appelé des copains de des copains de Casablanca et des copains de Marseille. Et on a appelé le projet Maclick, avec qui j'ai tourné aussi pas mal à Marseille et un peu partout en Europe. Et par la suite, voilà, on a créé Zar Électrique.
moi, la musique, ça est venu un petit peu par mon père et par mon entourage aussi quand j'étais petit. Et j'ai pratiqué naturellement la guitare, en fait, très jeune, sans vouloir vraiment faire ça sérieusement. Mais très vite, je me suis aperçu que j'aimais bien transgresser. Très vite, j'ai commencé à faire plus des sons que de la musique avec l'instrument. Je m'amusais à brancher les pédales en boucle, tout ça. Et du coup, naturellement, je me suis intéressé aux musiques électroniques. Très jeune aussi, j'ai pratiqué ça pendant longtemps. Et j'ai aussi eu un parcours beaucoup dans les musiques expérimentales et dans la noise. Donc je suis passé par le conservatoire en musique concrète, musique électroacoustique, comme on appelle ça. Donc là, j'ai dû faire ça pendant une dizaine d'années, je pense. Et en parallèle, j'ai continué à bosser sur des projets dits de musique actuelle. Donc j'avais un projet à Marseille qui s'appelait MC2, qui faisait du glitch hop, donc un mélange de musique expérimentale, de dubstep et de hip-hop. On a fait pas mal de EP, beaucoup de tournées avec ce projet. Et puis naturellement, quand j'ai arrêté de faire de la musique, on va dire, expérimentale, je me suis dirigé vers des collaborations. Et j'ai pas mal travaillé avec des artistes dans la chanson, le hip-hop, le slam, notamment des artistes locaux comme Iraka ou Oti Libé, avec qui déjà j'avais abordé un petit peu l'approche de musique trad, entre guillemets, sur l'hybridation des sons entre des choses acoustiques et électroniques. Voilà, après j'ai arrêté la musique et la tournée pendant longtemps, je me suis consacré plus à musique à l'image, musique pour le théâtre. Jusqu'au confinement, en fait, où j'ai rencontré virtuellement Anas, qui m'a invité pour faire des essais. Puis c'est comme ça qu'après, j'ai intégré Zara Electric. Voilà.
Très bien, merci. Et Arthur ?
Pour ma part, ça a commencé avec un vieux monsieur, quand j'étais jeune, à 10 ans, avec qui j'ai commencé à prendre des cours de percussion, hein, qui avait une grande richesse dans les percussions afro-latines et africaines. Donc j'ai commencé à travailler des rythmes très jeune comme ça, à découvrir le ternaire déjà à cet âge-là. Ensuite, toujours entouré de musiciens pendant l'adolescence qui étaient au conservatoire. Moi, j'y étais pas, mais toujours été en connexion avec ces gens, avec des petits groupes où on a toujours joué, on s'est toujours représenté même assez vite. J'ai toujours chanté, j'ai rappé, voilà. Et toujours gratouiller des choses comme ça en autodidacte. Et après, j'ai été amené à travailler en Afrique de l'Ouest, enfin entre guillemets, avec des associations. Voilà. Et ce qui m'a amené à découvrir l'instrument, la kora, dont je suis tombé assez vite amoureux. Et en m'installant à Marseille, j'ai rencontré un maître de kora, Karamoko Bangoura, avec qui j'ai travaillé pendant plus de 10 ans, avec la communauté guinéenne qui était là, les anciens de Circus Baobab, toute une communauté de super musiciens. Donc voilà, j'étais à Conakry aussi pour travailler l'instrument. Et puis la MAO qui est arrivée aussi un peu plus tard et qui a donné la naissance au projet Zara Electric.
Donc MAO, c'est
musique assistée par ordinateur.
Très bien pour les non-avertis. Ben, merci de vous être présenté. On voit que vous êtes donc trois instrumentistes très expérimentés et que Zara Electric n'est pas votre premier groupe à chacun. Est-ce que vous pouvez nous dire comment et quand s'est mis en place donc Zara Electric ?
Ben, ça s'est mis, on va dire, en fin 2018. Mais en fait, c'était une collaboration avec Arthur. Il m'a proposé de faire de chanter avec lui sur un son qui s'appelle Chouf. Et voilà, on a fait le Chouf. Et en fait, quand on a écouté le morceau, en fait, on est tombé amoureux de ce morceau. On s'est dit, waouh, c'est quelque chose. Un morceau, en fait, qui a beaucoup de profondeur. Et même pour moi, en fait, ce que j'ai chanté par rapport à ce que je faisais, par exemple, avec ma clique, c'était beaucoup de la chanson. Et là, c'était plus lyrique et tout. Et du coup, je trouvais beaucoup plus de liberté dans ce morceau-là. Et après, on s'est dit, bah, tiens, on pourrait commencer à bosser dessus. C'est venu vraiment par hasard, en fait. C'était pas vraiment un truc qui était calculé ou quoi. Et du coup, on a commencé à faire des petits ateliers à la maison. Je venais chez lui souvent, au cours Julien. Après, on est passé à l'ami, à la friche. Commencer à faire des petites sessions comme ça de travail, mais sans vraiment se dire qu'on va vraiment pousser le projet, parce que lui, il jouait avec ses projets. Moi, j'avais à ce moment-là ma clique. Donc, on faisait ça vraiment avec une envie de jouer, et ça a été toujours un peu le cas avec Arthur, parce que je l'ai déjà invité dans Bambara Group par exemple par avant, on avait toujours un feeling de se dire ouais, on s'aime bien musicalement, même humainement, et on se disait on va faire quelque chose un jour, et voilà, c'est présenté à ce moment-là. C'est tombé aussi en 2019 où ça commence à être officiel vraiment, parce que à ce moment-là j'ai arrêté mon ancien projet et on s'est mis à fond et à écrire, à composer jusqu'au décembre 2019, et on a décidé de faire un concert. Et on a fait un concert à la brasserie communale, et on a enchaîné en fait janvier, février jusqu'à mars, et là il y a eu le confinement, et bim, on a commencé vraiment à réfléchir au projet sérieusement.
Donc vous avez commencé en duo, et suite au confinement, c'est devenu un trio marseillais, c'est ça?
Ouais, Anas du coup avait connecté avec Didier via Internet, parce qu'on avait toujours dans cette optique d'être accompagné par de la musique électronique qu'on composait avec nos petites notions d'Ableton avec Anas, mais dans l'idée, on savait qu'il nous fallait une tierce personne, quoi, qui connaisse vraiment bien ce job et surtout qui ait cette culture et puis qui ait sa patte à lui, qui puisse amener quelque chose de musical là-dedans. Et donc Didier, voilà, là, il y a eu la rencontre avec Didier virtuellement, comme il disait, parce que c'était le confinement.
Ouais, ouais.
Lui, il était à Paris, moi aussi j'étais à Paris à cette époque-là. Mmh. On est tous les deux redescendus de Paris en fait, en se disant bon, c'est vaut mieux pas rester là-haut. Et voilà, et on a fait une résidence en 2021 à Fort-Calquier au Café Quoi d'ailleurs. Ils peuvent écouter la radio vu qu'il y a les ondes là-bas. Donc on les remercie encore.
0-4.
Et on a fait la. Voilà. Didier est rentré dans le répertoire. C'est vrai que c'est ce qu'on avait composé avec Anas. Donc il est arrivé rebidouiller un peu à sa sauce ce qui était déjà composé. Et puis bon, maintenant on compose d'une toute autre manière. Oui.
C'est vrai que dès la première résidence, on a tout de suite enchaîné après la tournée à trois en fait.
Il y avait déjà des dates en fait. Donc c'était vite. Il faut qu'il attrape le répertoire.
Ouais. Ça s'est fait en 10 jours, un truc comme ça. Mmh. Vraiment.
Juste après, on a fait cette sortie de résidence à Fort-Calquier, et après, en fait, on participait à
Horizon Sud.
Donc, on avait, pareil, c'est pour le tremplin. En fait, on avait déjà postulé pour l'année d'avant, mais vu qu'il y a eu le Covid, donc on a fait une année blanche. Et en fait, Francine m'appelle, me dit, Anas, en fait, est-ce que ça vous dit toujours, on va relancer le truc? Et sachant qu'il y avait pas mal de groupes qui ont désisté ou des groupes qui se sont séparés parce qu'il y a le confinement. Mmh. Et du coup, on s'est dit, ouais, carrément, on le fait. Et pareil, donc, on a commencé à faire des petits concerts, mais qu'ils n'étaient vraiment pas des concerts officiels parce que c'était les masques assis et c'était un cadre de tremplin. Donc, ce n'était pas vraiment concert ouvert pour tout le monde. Et c'était drôle que nous, on commence vraiment à commencer dans ces conditions-là. Il y avait beaucoup de frustration quand même de ne pas pouvoir s'en jaillir plus que ça. Les gens, ils sont assis et tout. Voilà. Et du coup, ça nous a permis d'être... Nous, à ce moment-là, on répétait beaucoup. Donc, on préparait, sachant qu'il n'y avait pas des annonces de concert ou quoi. Mais ça nous a permis vachement de rester actifs pendant la période de confinement.
Ça s'est vite enchaîné juste après. Donc, une seule résidence. C'est ça, comme quoi c'est grâce aux concerts, les premiers concerts que vous avez faits, les premiers tremplins, que vous êtes rencontrés aussi sur scène.
Ouais, complètement.
Ça aussi, le fait que vous soyez des musiciens expérimentés, c'est que vous n'avez pas peur, vous n'avez pas besoin de 15 000 répètes pour vous lancer et être sur scène ensemble.
Et après, c'est pas que juste être sur scène, en fait, c'est qu'il y avait la rencontre aussi, parce que Didier, en fait, c'était c'était le confinement, donc on parlait en ligne, tu vois, mais on ne connaissait pas la personne. Donc le Café Quoi, ils nous ont ouvert les portes. On s'est retrouvé là-bas dans le 04, dans un camping. Donc on travaillait la journée, le soir, on a vraiment vécu vraiment notre rencontre comme ça, tu vois. Donc après le travail, on se rencontrait avec Didier, on parlait et c'était super agréable parce qu'on était hyper tendu. On connaissait pas Didier, on avait une pression de sortie et on savait pas comment ça va être parce que lui il va arriver et il a senti vachement de la pression de ma part ou de la part de Arthur, et on voyait aussi les morceaux qui se changeaient parce que nous on les connaissait autrement, donc j'ai dit ah non ce kick faut pas que ça soit comme ça, enfin tu vois. Et petit à petit, une semaine après, je me rappelle très bien la veille du concert, là on était mode détendu, on était dans la salle, on a fait un peu l'apéro et c'était super rencontre quoi.
Donc la rencontre entre vous trois a marché.
Ouais, voilà. Trop bien.
Ce qui n'est jamais facile, effectivement. On va écouter Ntia pour se faire une idée. De Zar Electric sur Fréquence Mistral. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce morceau?
Alors, c'est un morceau... là, pour le coup, on part des fois de répertoire traditionnel, mais là, c'est pas le cas. C'est de l'écriture pure. Ça vient de nous. C'est, C'est une histoire, ça commence par un appel téléphonique, un appel de couple en fait, et une histoire qui dégénère un peu, cette histoire du téléphone, de l'incompréhension des fois qu'on peut avoir dans des relations amoureuses. Et ça dénigre très vite vers un personnage voilà, qui est blessé, qui est triste, et qui s'enfonce un peu dans la nuit marseillaise, dans les méandres, dans la folie, et qui exprime ça, qui se demande de quoi sera fait demain.
Il y a quelque chose aussi de fort dans ce morceau, c'est que quand ils ont fait ça ensemble et qu'ils ont commencé, il y a du vécu aussi, si je peux me permettre. C'est aussi du vécu, c'est-à-dire qu'ils étaient tous les deux dans une période où ils avaient des difficultés dans leur vie et ça a donné naissance à ce morceau, ce qui donne une autre dimension aussi. Vraiment, c'est pas qu'une histoire, quoi. Il y a aussi quelque chose
de vécu. Des difficultés aussi qu'ils étaient liées à la musique, en fait. Parce que pendant les moments d'immersion, on s'est retrouvés à créer... Voilà, réfléchir au projet et tout ça, ben en fait ça mangeait un peu de la famille si tu veux ou du côté voilà de ce que ta vie personnelle
vie privée,
quoi. Et du coup ça voilà, on a vécu ça réellement et on s'est dit pendant la création, on a dit bah vas-y, on va faire un TIA. C'est arrivé vraiment comme ça, je suis rentré, je me rappelle très bien, genre j'ai dit mais le truc, je mets le casque, un TIA, madre TIA. Un TIA c'est au féminin, c'est toi au féminin, mais du coup, comme il dit Arthur, ça a vite pris cette chemin. Genre, c'est que certes, à ce moment-là, je chantais sur une tia, cette relation ou ma femme ou quoi, mais que en fait, après, on s'est rabibouché. Du coup, j'ai modifié le texte et ça a pris cette forme, comme il disait Arthur, de voilà, tu te laisses aller, tu voilà, je sais pas comment dire.
Mais c'est sûr que c'est pas évident de trouver l'équilibre. Surtout dans vos métiers où il y a beaucoup de tournées entre la vie privée et la vie professionnelle. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le zar, traditionnellement ?
Bon, le zar, c'est un rituel, en fait. C'est un vieux rituel et c'est aussi une musique traditionnelle de guérison qui a toujours existé en Égypte, mais avec une autre façon en Éthiopie, et même aussi dans le nord du Soudan. Et en fait, nous, la vérité, c'est que quand on entend zar, on se pose la question, on se dit, waouh, est-ce que ça va être du vrai zar dont on parle, donc la musique traditionnelle. En fait, non, nous, on s'est juste inspiré de, comment dire, de ces rythmes, de cette forme de rituel et tout. Et comme en fait zar, en fait c'était vraiment un hasard en vrai, parce que au début Arthur il me parlait de zahar, tu vois, qui est les fleurs, et en fait il y avait un projet en fait que j'ai connu moi quand j'étais jeune, je dis ah enfin ça existe déjà le zahar, et en fait en enlevant le h, ben c'est devenu zar. Et après il y a la liaison. Pourquoi on a choisi réellement, ben, en fait pour rester dans les trans, parce que c'est une musique de trans zar. En fait, c'est des femmes qui vont faire la fête, enfin la fête, ils vont faire un rituel pour se guérir. Et en fait, nous, on a lié ça avec le zar, comme le gnawa au Maroc, ça existe, c'est pareil, c'est la même forme. Il y a le stambali en Tunisie, c'est la même forme. Le diwan en Algérie, c'est la même forme. Et du coup, on voulait garder un peu cette trame, en fait, qui a toujours existé dans le... Pas forcément que le Nord-Afrique, mais aussi le bassin du Sahel et tout ça. On se dit on va prendre le zar et le transformer à notre façon.
Mais effectivement, ça n'a pas à voir avec la musique zar.
Mais
le fond, c'est la trance, c'est la guérison.
Est-ce que vous avez chanté juste avant, justement ?
Moi aussi.
Vous êtes guéri de vos relations.
Exactement.
Grâce à une chanson. Et donc là, vous avez commencé à répondre, mais donc pourquoi hybrider donc des styles musicaux, des instruments qui se trouvent dans différentes régions du monde et les associer ensemble grâce à vous trois?
Après, ce qui est important, parce que du point de vue extérieur, ça revient souvent de c'est du gnawa électro, mais c'est pas vrai. Il y a de l'inspiration gnawa, il y a des fois les textes et les riffs, mais ils sont déjà, la musique est tellement transformée par rapport à ça. Et puis il y a vraiment de la pure composition. En fait, on est parti aussi d'un riff qu'on a inventé et de l'allier à l'électro, donc c'est pas totalement ça. Je voulais préciser
c'est plus de l'emprunt à ces musiques là que vraiment du répertoire traditionnel.
Et il faut pas aussi oublier le répertoire traditionnel, c'est qu'on n'a pas vraiment des super enregistrements. Donc ça veut dire quand tu veux déchiffrer, par exemple moi je me rappelle quand j'étais jeune, je voulais déchiffrer par exemple une ligne de Gembri. Tu vois, le gimbri, l'instrument traditionnel basse là, de Gnawa, ben, en fait, c'était compliqué. J'entendais du... Tu vois, et du coup, à l'époque, on n'avait vraiment pas les meilleures techniques comme aujourd'hui d'enregistrement et tout ça. Donc, il y avait cette histoire d'aller sortir ces instruments aussi de là. Les morceaux aussi, les répertoires, pour aussi les protéger, pour ne pas que, enfin voilà, pour qu'on ne les perde pas, ces répertoires, parce que c'est des répertoires qui étaient transmis oralement de génération en génération. Et du coup, nous, c'est aussi cette partie-là. Donc, on continue de garder ces chansons et ces répertoires avec nous et transmettre aussi aux générations suivantes, quoi.
Donc il y a un enjeu de transmission, mais vous partez de vous qui connaissez ces instruments, qui les avez appris, et vous composez à partir de,
oui, voilà,
des musiques que vous aimez.
Et protéger ces instruments, parce que par exemple Arthur, en fait, il ne va pas sur YouTube pour apprendre la kora. En fait, non, il faut voyager, aller rencontrer les maîtres. Donc il y a tout ce travail-là, en fait, qu'on le fait. Non, on l'a vécu comme ça, mais on ne se dit pas oui, on le fait. Mais en fait, oui, ça fait un peu partie de notre chemin.
Après, pour revenir sur ta question, on s'inspire du coup, le Gnawa par exemple, qui est purement de la musique très trance à la base. Et l'idée, c'était de. Donc pourquoi le. C'était quoi la question exactement? Pourquoi le.
Hybrider les.
Pourquoi l'hybrider? C'est parce que c'était cette trance de musique électronique qui existe déjà, mais de son côté. Et c'était une envie de rassembler ces deux sortes de trance et d'en faire. C'était un pari un peu de rendre ça homogène, et on ne savait pas si ça allait marcher vraiment et comment ça allait pouvoir se faire, et en fait ça se fait très bien, c'est assez chouette.
Pourquoi avoir choisi le label Jarring Effect?
Alors en fait ça s'est fait par des rencontres, en fait, surtout. C'est-à-dire qu'on bossait déjà avec, on bosse déjà avec la Mass Rock, en fait, qui nous fait tourner, qui a produit aussi le EP. Et quand on s'est posé la question, qu'on a commencé à chercher des labels, on a passé en revue plusieurs labels qui nous intéressaient. Et Yves connaissait déjà un mot de Jarring Effect. Et puis moi, dans la même période, je l'avais rencontré et j'avais déjà laissé le CD. Et il se trouve qu'on a joué au Mama, en fait, c'est ça. Il est venu au Mama et il a eu un coup de cœur en nous voyant sur scène. Et c'est naturellement qu'ensuite, on a commencé à discuter pour la possibilité de sortir ce EP avec eux, quoi. Voilà, ça s'est fait plus naturellement que... Voilà, ça fait comme ça, quoi.
Et après, moi, la vérité, ça veut dire, ma jeunesse, je l'ai vécue à Casablanca, donc forcément, je ne connais pas ce qui s'est passé ici il y a 20 ans. Et en fait, j'étais hyper étonné, quoi. Mmh. Je me balade au Courjus ou à la Plaine ou quoi, je rencontre plein de potes, ils me disent « Ah, bon, ça, check Jarring Effect ». Du coup, j'étais là « Ah ouais, non, c'est un truc qui est connu ».
Oui, c'est quand même... En France, c'est un label emblématique, en tout cas, au niveau de toute la scène dub des fins 90, ouais, début 2000.
C'est Hayton, quoi.
Ils ont vraiment porté des artistes hyper intéressants pendant plusieurs décennies, quand même. Aujourd'hui, ils sont allés dans d'autres directions, puisqu'ils ont leur sous-label. Ils ont Galan Records et l'autre, j'ai oublié, plus techno.
J'ai oublié aussi.
Mais qui est super aussi. L'artiste Submarine, là, qui a sorti aussi l'album récemment. Et du coup, voilà, ils continuent, ils existent encore. Et nous, du coup, c'est plutôt chouette aussi de sortir notre premier truc avec eux. Symboliquement, il y a quelque chose.
Mmh. En tout cas, on est content. Mmh. Super équipe.
Et on va s'écouter donc Sadier.
Allez.
Allez.
alors Sadie, justement, comment elle a été composée cette chanson?
Alors Sadie, ben, déjà c'est un morceau qu'Anas jouait avant, depuis longtemps. Il avait une version à lui qui jouait guitare-voix, je crois, c'est ça. Et on avait fait un concert, c'était à Miramas, on jouait dans une cité. Et à un moment, on avait du temps, il y avait une sorte de rappel, ils ont joué cette version à deux en acoustique. Et donc moi, à ce moment-là, je m'étais mis en retrait et j'ai adoré le morceau, en fait. Et je me suis dit, bah là, faut trop en faire un truc. Et je sais plus, quelques semaines ou mois après, on était en répétition pour un live. Et donc, on l'a tenté et tout ça. Je me rappelle, ils étaient sortis fumer une clope et j'avais entendu le truc. Et j'ai fait la petite ritournelle, là, au synthé qu'on entend. Et juste un pied qui faisait boum-boum. Et je crois qu'on a commencé comme ça. Et les premières versions de live, on le jouait comme ça, quoi. Ça a été... voilà, et après, bah, il y a eu la version EP où on a décidé de l'écrire. Il est assez différent de la version live. La version live qu'on fait, elle est un peu plus brute, on va dire. Et puis voilà, puis sur ce morceau, il y a eu un vrai travail aussi de son composite au niveau des percussions, où il y a eu un travail aussi de... J'ai travaillé sur des sons où j'ai conservé, par exemple, le son de la peau des percussions, mais en augmentant ça avec des sons de TR-808, pour ceux qui connaissent, ou des synthés. Enfin voilà, c'est un morceau sur lequel j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler. Mais en tout cas, voilà, c'est un morceau qui était... Je crois que c'est le premier titre qui est né comme ça, à trois, en fait, qu'on a intégré au répertoire, quoi. C'est-à-dire que ce qu'il y avait avant, il les jouait déjà. Ça, c'est le premier, vraiment, qu'on a intégré, voilà, quand j'ai bossé.
Donc c'est votre première composition de trio.
Ouais.
Et... C'était déjà écrit, quand même. Mais c'est cette version qu'on entend au final, en effet, ouais.
Mais il y a ta patte aussi dedans.
Voilà, bien sûr.
Autant que la leur. Et donc, comment vous composez? Comment vous y prenez? Est-ce que vous avez une méthode ou ça part à d'inspirations différentes?
En vrai, vu qu'on travaille tous les trois sur Ableton, qui est le logiciel de MAO dont on parlait, on a aussi une méthode où on compose des choses, des fois, dans notre coin, chacun dans notre coin. Et on va, pour la résidence de création, ramener ça en disant ben « voilà, moi j'ai ça qui me plaît, que j'aime bien, qu'est-ce que t'en penses toi ?»« Ah oui, moi ça me... Ok, donc donne-moi ce projet, moi je compose comme ça. »
Bon, c'est ça, ouais.
Ça, c'est une première partie.
Et ça part quand même souvent de chansons. La plupart des titres partent de la chanson, donc souvent c'est Arthur et Anas qui se collent à ça d'abord. Et moi, souvent après, je reprends ça derrière et je fous un peu le why.
Et après, c'est vraiment, je trouve, c'est... C'est difficile en vrai de se mettre, je vais continuer de le dire, parce que c'est difficile vraiment qu'on trouve cet équilibre-là. Et en fait, dans cette musique, il y a tellement d'influences, en fait. Il y a tellement de... Si tu entends, moi, je le vois vraiment toujours comme un truc GPS, quoi. On passe du nord au sud, à l'est, à l'ouest, géographiquement, historiquement et mélodiquement. Et du coup, c'est vu que nous, on est trois différents et trois parcours différents avec une expérience à chacun. Donc, on a toujours cette difficulté, mais ce qui est super parce que ça enrichit en fait le projet, si tu veux, parce que ça va toujours de là. Et moi, je trouve que c'est super comme expérience et comme exercice, quoi.
Donc, c'est un défi à chaque fois quand vous retrouvez en résidence de création. C'est enthousiasmant, quoi, de vous dire comment...
Ouais, mais bah, en fait, c'est vraiment fou. Après, on le voit pas réellement, bah, ma part, hein, je l'entends vraiment comme ça, c'est compressé, c'est enregistré. Mais c'est vrai qu'en live, tu découvres vraiment quelque chose d'énorme, tu vois, en termes d'énergie, en termes d'idées, en termes de... Voilà, de rythme et tout. Donc, et c'est ça, c'est une force, en fait. Et du coup, nous, des fois, on a du mal, après, à canaliser toutes ces richesses-là dans un morceau. C'est quand même hyper compliqué. Et du coup, cet exercice-là, ça nous donne toujours des morceaux qui sont hyper variables, hyper puissants. Et ça, d'ailleurs, on le trouve sur Awa, l'intro, à l'outro, tu vois. Cette profondeur, en fait, on va aller la chercher. C'est un exercice qui est... quand même pas facile, je veux dire, et on l'assure, on a réussi à sortir ça comme ça, on est très fiers et heureux. Mais voilà, donc c'est beaucoup de travail de recherche, et de on passe beaucoup de temps à parler aussi des morceaux, voilà, et je trouve ça chouette.
Et vous appuyez aussi sur des retours d'amis, d'autres personnes qui font de la musique, ou vous êtes vraiment le socle tous les trois?
Bah, les gens ne voient pas trop ce travail intermédiaire. Y a pas... Ça a pu arriver, mais bon.
Et puis,
je sais pas d'agnée. Non. d'exemple vraiment.
Moi, pour ma part, mais je crois qu'on a, je sais pas si on est tous les trois pareils là-dessus, mais dans le process de création, je fais jamais écouter les choses à d'autres personnes, parce que ça peut avoir tendance à couper l'herbe sous les pieds. Nous, en fait, c'est bien d'aller au bout de ses idées. Et après, on voit quoi.
C'est vrai, parce que ça donne beaucoup de doutes après. En fait, et c'est compliqué. Surtout au fait qu'on. Je veux dire, quand tu maîtrises quelque chose, en fait, et quand tu maîtrises tellement la chose, c'est que tu es sensible après. Tu vois, tu perds en fait beaucoup de confiance en vrai. Et du coup, d'avoir les gens qui te donnent des retours, en fait, ça crée du doute. Tu dis, ah, en fait, peut-être. Du coup, tu vas te retrouver avec le même morceau à 5 versions, 6 versions. En fait, c'est pas bon. Du coup, comme il dit, il faut aller jusqu'au bout, faire la chose. Et on a des copains, je pense, super gentils. Chaque fois, ils ont fait des super retours. Franchement, ils sont. Ouais, voilà, ils sont fans. C'est des copains, mais qui sont fans, tu vois. À chaque fois, ils viennent, ils disent, ah, c'est trop bien, les gars. Et je les remercie d'ailleurs. Merci, les gars.
Et donc, ce premier album, Awa, il est sorti très récemment.
Il y a deux semaines.
C'est un EP.
C'est un EP. Tout le monde dit album, mais c'est EP. Ah. C'est un long EP. C'est un gros EP, on va dire.
Quand est-ce que vous l'avez composé?
En fait, après, eux, ils avaient les premières versions. Et puis, au fil des dates, on a commencé à les modifier. Et on a fait une première résidence de maquette un été, je sais plus quand c'était, je suis désolé.
C'est que quand on compose les morceaux, après on va les jouer, et en fait en jouant les morceaux, tu vois, les retours des copains, en fait on va pas en prendre un retour, comment dire, avec des mots, on va le prendre vraiment avec du geste, tu vois, sur scène, en fait, ce qui se passe en public. Mmh. Et du coup là, en fait, on s'est dit, ah, alors là, il faut enlever ça, peut-être faut. Et du coup, ça a été modifié au fil avec les concerts. Et après, on a créé d'une façon comme ça, comme ça part de une chanson, une mélodie, tout ça. Et après, pendant toute la tournée, en fait, il y a plein de choses qui se sont rajoutées. Didier, par exemple, pour l'EP, par exemple, il a fait un énorme travail sonore. Il a pris du temps, il est parti à Paris. Enfin, voilà. Moi, j'étais en vacances, mais donc il y a une partie, tu vois, comme ça, qui a été faite. Et voilà, je trouve ça assez bien.
Par exemple, l'outro n'existait pas. Ça a été un malentendu, quoi. Au moment où on était en mixage, l'ingé son, il est parti. Et puis, j'ai lancé une manip, ça donnait un truc. Arthur, il a entendu, on a fait « Ah ouais, c'est cool ». Du coup, on a gardé, quoi. Il y a eu ça, par exemple. L'intro, on s'est posé longtemps la question. Parce qu'en live, sur Awa, par exemple, on joue vraiment d'une traite. Il y a l'intro, Kohana se fait tout seul au wood et au chant. Et ensuite, on part sur Awa. Et cette version, par exemple, EP, n'a presque rien à voir, quoi, en fait, en termes d'arrangement, d'harmonie. Et d'ailleurs, Awa, pareil, à la première version, et celle qu'on a sur l'EP, c'est vraiment quasiment rien à voir, quoi.
Ouais. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un travail de studio, il y a un travail de live, et il y a aussi...
Et de chacun, surtout, tu vois. Par exemple, Awa, on entend la voix, le oud, certes, je ne me rappelle plus de ce moment, on va dire, la mélodie, comment je l'ai trouvée, je ne me rappelle plus, mais sûrement un moment où j'étais... avec Oud, Silence, La Nuit, tu vois. Mais je me rappelle, ce que je me souviens, c'est qu'Arthur, je lui dis, écoute, est-ce que tu ne sens pas de faire des petites percus qui vont aller crescendo, tu vois. Et du coup, Arthur, il est allé faire ça, tout seul avec l'ordinateur, il est revenu avec qui part sur Awa, un synthé, machin. Mais du coup, c'est tout un travail d'équipe, mais qui n'est pas ensemble. Et ça, c'est bien, c'est que ça veut dire que, ensemble, en fait, il y aura toujours quelqu'un derrière l'ordinateur. Donc, on ne peut pas dire que c'est nous, on a travaillé tous ensemble. En fait, ce n'est pas possible. Donc, on fait chacun une partie. Donc, c'est des influences entassées et qui vont après être embellies par des synthés qui va ramener Didier. Enfin, voilà. Donc, c'est un travail de fond, en fait.
Après, ce que je trouve intéressant, comme vous disiez, c'est que ça a évolué aussi avec les tournées.
Exactement.
Et que pendant la tournée, pendant votre show, vous êtes les trois ensemble sur scène. C'est bien votre énergie, les trois ensemble, qui influence le public à ce moment-là. Et que vous n'avez pas fait un EP, puis vous êtes parti en tournée. Cet EP, il a toute une histoire, comme vous l'avez dit. Et aussi l'histoire de la tournée qui l'a fait mûrir. Et c'est ça qui est aussi...
Mais ça continue comme ça, d'ailleurs. C'est-à-dire que même les titres qu'on est en train de faire, il y a des choses...
On les pense live, ouais.
Et qui sont nées surtout pendant les rappels. Genre, l'été dernier, on a joué, il y a des trucs... on avait une boucle, il y a des trucs comme... des titres qui arriveront bientôt, j'espère, qui sont nés dans les rappels, des jams de fin de concert, et qui on se dit, ah ben ça, on va le garder. Après, et ça continue toujours comme ça. Hein, c'est...
Après, ouais, c'est, en fait, c'est que dans le live, il y a une générosité qui est folle, vraiment. Donc, je pense que je vais zapper vers la prochaine question, en fait, directement, non ?
Oui, bah c'est ça, c'est comment vous suivre, quelles sont vos prochaines dates ?
Voilà, donc le live, il y a quelque chose de hyper universel, en fait. Par exemple, on se retrouve avec des enfants avec nous sur scène et des mamies avec nous sur scène. Il y a une espèce de... On est tous ensemble et on fait ce zar ensemble.
C'est très fédérateur, oui.
Ouais. Et du coup... quand on dit c'est fini le concert, en fait, les gens, ils n'ont pas envie de partir. Du coup, à chaque fois, ils vont nous demander des rappels. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, on n'a plus de morceaux, réellement. On n'a plus, on se retrouve comme ça. Et du coup, vu qu'on a. Et t'as l'organisateur aussi, il te regarde, il te dit vas-y, continue. En fait, qu'est-ce que je vais faire ? Et à ce moment-là, ils arrivent ces moments-là d'impro, et on découvre des trucs chouettes, et on se dit waouh, c'était trop bien ce truc-là. Et voilà, et au fil du temps, Didier, il va continuer d'enregistrer ces synthés-là, et après, ça revient à la même chose, et ça donne des nouveaux morceaux. C'est cool.
C'est économique. Ouais.
Tous les jours. Là, le prochain album, ça va
être optimise.
Live.
Bah, c'est très bien, vous créez en même temps sur scène. Bah, en plus, c'est des belles énergies, les fins de concert, j'imagine, quand ça s'est bien passé. Ouais.
Mais nous, c'est vrai, il y a vraiment ce truc, ils l'ont dit, là, c'est très fédérateur, et Zar, ça, vraiment, ce truc-là, c'est... Ça a été surprenant. Tous les endroits où on a joué, qu'on se retrouve à la campagne avec des punks à chiens, ou, désolé, mais. Ou quoi, jouer dans une cité avec des familles, n'importe où on va. Non, mais c'est vrai, quoi.
Non, avec des gens.
Mais ça déconne,
des bons vivants, je suis désolé, on rencontre beaucoup de monde, de différentes couleurs, différents. Pardon, je comme ça, mais. Non, mais je tiens vraiment à le dire, c'est qu'on rencontre tellement de monde, de différentes croyances, différentes. Et on a toujours été avec eux de la même façon, comme nous, comme eux. Et ça, c'est ce qu'on appelle Zar, ce côté fédérateur. Après,
c'est ce que j'allais dire. Je voulais énumérer tout le panel de styles de personnes qu'on peut rencontrer et en fait qui se retrouvent tous ensemble au final. Et voilà, c'est.
Mais tu m'as coupé. Les mamies qui te disent j'aime pas l'électro, mais j'adore Zar, ça fait vraiment plaisir. franchement, c'est.
Et donc, vous avez fait déjà pas mal de tournées là, en 2022.
Ouais.
Vous avez fait là en janvier une tournée en Algérie.
C'est ça.
Et là, vous avez pas mal de dates de prévues. Est-ce que vous voulez nous parler de certaines ou...
En fait, on a beaucoup de dates à Paris. Mais parce que aussi, on a beaucoup joué à Marseille, en fait.
Oui, j'ai vu l'année dernière, vous avez joué trois fois.
Voilà, donc, il faut un peu laisser un petit peu aussi.
On a fait la Fiesta des Suds l'année dernière. On a fait les 30 ans de la Friche aussi. On a fait les 30 ans de la Fiesta et les 30 ans de la Friche, c'était
et
drôle.
Et vous êtes allé au Flamand aussi.
Oui, on a joué
et au la cité des Flamands.
Waouh, c'était trop bien cette date. Et on est toujours content de revenir à Marseille, donc il va y avoir des dates, on espère, Inch'Allah, l'année prochaine.
Voilà. Ce qui fait plaisir quand on voit la tournée que vous avez faite et celle-là, c'est les différents lieux où vous passez. Il n'y a pas un style de public, ça donne l'impression vu les lieux. Et donc ça va bien avec ce côté hétéroclite dont vous parlez.
La dernière, on a fait 70 dates, donc oui, t'es obligé de te retrouver dans des salles polyvalentes, hein, au fin fond de la Bourgogne, mais c'est génial.
Ça fait vivre des choses assez bien, quoi.
Mais merci de faire ça et de prendre l'énergie d'aller à plein d'endroits.
Mais c'est important, en fait.
Il y a juste une date qui est là, le samedi prochain. Du coup, c'est à Perpignan, au Festival Sirocco. Donc, ça reste quand même à côté.
À côté.
Vous êtes à côté d'une camping ou quoi, venez nous voir.
En tout cas, je conseille à tous les auditeurs et auditrices de venir vous voir en live. Comment on vous suit ? Vous êtes connecté aux réseaux sociaux, j'imagine ?
Oui.
Facebook, Instagram, YouTube.
Et puis Spotify et tout ça, tout ça.
Oui, l'EP est sur toutes les plateformes.
Et c'est toujours Zar, Z-A-R, électrique avec un K. C'est pas Zach, c'est pas Zark, c'est Zar.
C'est Zar. Pour conclure, on va écouter l'intro dont vous parliez tout à l'heure. Vous avez parlé plusieurs fois. Est-ce que vous avez un mot à ajouter ?
On te remercie. On remercie Fréquence Mistral Marseille et tous les copains qui nous entendent. Salut.
Merci et surtout à vous d'être venu.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. Ailleurs.
غزال نهيف بجمالي فجارت chacun.